l'arrivée de 140 000 Chinois en France pendant la guerre, c'est pas un petit débat. C'est-à-dire que c'est une des plus grandes migrations organisées en moins de 2 ans de population asiatique vers l'Occident. Quand ils arrivent à la gare de Lyon, vous avez des articles comme le 116 de la presse, l'Excelsior par exemple, qui les décrivent. Ils arrivent tels des grands régiments dans leur uniforme bleu, prêts à nous aider à vaincre sur l'Allemagne. Mais on sent déjà dans la dialectique des textes ces notions de masse, d'organisation, de... Ils n'arrivent pas comme des migrants classiques, ils sont déjà organisés, sont en rang. Quelque part, il y a déjà quelque chose qui est inquiétant.
C'est qu'on marche tout de suite dans le fantasme et dans le cliché.
Et ça, l'État se rend compte, les chroniqueurs de l'époque, ou la presse, dès 22-23. Et petit à petit, on va voir émerger dans la presse la notion de danger, la notion de rouge dans la cité, la notion de révolutionnaire potentiel. Puis on commence à le savoir, les Ho Chi Minh et autres sont au Parti communiste. Il est au Congrès de Tours.
Les jaunes deviennent péril rouge, la menace
rouge. Voilà, on passe du péril jaune au péril rouge. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que regardez, vous relisez Perfide, vous relisez Malraux, vous relisez tout ça sur l'ensemble du siècle. Vous vous rendez compte que
quand la Chine se réveillera.
Et en permanence, cette dialectique, crainte, fascination, cette Chine qui nous fascine, mais en même temps qui nous fait peur. Un discours sur, d'un côté, on est fasciné par cette capacité à s'intégrer économiquement, et en même temps, on est paniqué par cette capacité à nous envahir, je dirais d'une certaine manière, sans rentrer dans le jeu de l'intégration républicaine. Quelque part, ils échappent au modèle que la République construit pour ces vagues d'immigrants, et en même temps, c'est ceux qui s'intègrent le mieux. Donc c'est parfaitement paradoxal pour la République, elle ne sait pas comment saisir ce qui pourrait être un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils ont tous les signes d'une intégration parfaitement réussie, et en même temps, ils sont totalement à côté des schémas républicains d'intégration. Par exemple, le débat sur l'intégration, nous ne l'oublions pas, a aussi, d'une certaine manière, une rupture par rapport aux cultures d'origine. Et il est inconcevable pour des Vietnamiens, des Chinois ou des Japonais, par exemple, qui vivent à Paris depuis des années, d'être en rupture avec leur culture et d'origine. Et en même temps, ils répondent à toutes les attentes. Ils bossent, leurs enfants vont à l'école, ils semblent être travailleurs. On a l'impression qu'avec eux, il n'y a pas de problème de criminalité, parce que c'est vrai que vous n'entendez jamais parler des sauvageons asiatiques de banlieue. Bah, c'est jamais
dans
le
discours. En tout cas, quand on dit sauvageons, c'est tout de
suite marrant, pas voilà. Asiatique. Des trois couleurs de l'Empire, il y en a une qui disparaît immédiatement, c'est les jaunes. Ils semblent intégrés puisque l'économique prime et que l'économique est le seul mode de lecture.
Je vous coupe Pascal. Non, c'est exactement ce qui est en train de passer de l'économique prime. Là, il y a un magasin informatique qui est en train de se faire livrer. Donc c'est pour ça que toute la rue klaxonne parce que le business marche. Quoi.
Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui au niveau de l'économie de la Chine? On sent que ça s'emballe, on sent que l'économie chinoise est en train de dominer le monde. Mais en même temps, on est fasciné, on y va et on vend des Airbus. Et mais en même temps, on en a peur. C'est une double dialectique qui est exactement la même, sauf qu'on est passé du champ du militaire à une guerre économique. Mais en termes de dialectique, si vous lisez la presse aujourd'hui, si vous regardez le rapport à la Chine, c'est à la fois fascination, faut y aller pour la croissance, faut y aller pour le business. Et c'est là où se fait la guerre économique d'aujourd'hui.